France Culture.
On fait le point sur l'info, c'est le journal de la rédaction avec Thomas Cluzel. Rebonjour Thomas.
Rebonjour Marie, bonjour à toutes et à tous. Et nous serons dès le début du journal en Roumanie où un candidat d'extrême droite est arrivé très largement en tête hier soir du premier tour de l'élection présidentielle. On se rendra également en Allemagne à la veille de la prestation de serment du nouveau gouvernement de coalition. On détaillera le nouveau plan du gouvernement israélien de Benjamin Netanyahou pour conquérir la bande de Gaza. On se demandera par ailleurs avec notre invité si la France a les moyens d'attirer les chercheurs américain menacé par la politique de Donald Trump. Enfin, on fera le point sur les différents scénarios possibles envisagés par l'exécutif pour faire évoluer le service national universel. 5 mois après l'annulation choc du premier tour de la présidentielle, le remake du scrutin organisé hier en Roumanie s'annonçait tout aussi spectaculaire en l'occurrence. Et avec plus de 40% des suffrages, un score écrasant, le candidat de l'extrême droite arrivé en tête a même très largement dépassé les estimations des sondages, au point qu'à 38 ans, George Simion, un eurosceptique admirateur assumé de Donald Trump, connu pour ses déclarations provocatrices et sa rhétorique souverainiste, semble bien parti pour devenir le prochain président. Même si en réalité, la tâche pourrait s'avérer compliquée. Pourquoi ? Parce qu'il dispose sur le papier de moins de réserves de voix que son rival, le maire de la capitale, un centriste pro-européen, péniblement arrivé lui à la deuxième place avec seulement 21% des suffrages. Alors il faudra patienter encore jusqu'au 18 mai prochain, date du second tour pour connaître la réponse. Virginie Pironon, bonjour.
Bonjour.
Envoyé spécial à Bucarest, où George Simion, qui réserve ses interviews aux médias alternatifs, vous a accordé un entretien exclusif, Virginie.
Effectivement, entretien samedi, veille du premier tour, à condition qu'on ne le qualifie pas de candidat d'extrême droite. Ici, beaucoup l'accusent d'avoir considérablement adouci son discours ces dernières années, n'affichant plus ouvertement ses positions ultranationalistes.
Mais je n'ai pas changé de position. J'ai 38 ans. Je suis né en 1986. J'avais 3 ans à la Révolution roumaine. Je ne peux pas être autre chose qu'un démocrate convaincu.
Autour d'une table entourée de journalistes de la presse dite alternative qui boit ses paroles tout en nous filmant, George Simion nous garantit n'avoir aucune sympathie particulière pour la Russie de Vladimir Poutine.
Je n'ai jamais aimé les Russes, ni avant de faire de la politique, ni maintenant.
Alors qu'il revendique en revanche sa proximité avec Donald Trump et dit qu'il faut en finir rapidement avec la guerre en Ukraine. Celui qui est aussi député européen, il est vice-président du groupe ECR, celui de Giorgia Meloni, nous assure ne pas être contre l'Union européenne, mais...
En tant que jeune Roumain, je veux faire partie du monde libre. Mais le monde libre, comme je le conçois, ne doit pas m'obliger d'accepter que mon fils, à 8 ou 10 ans, change de sexe.
Ici à Bucarest, George Simion est décrit par des analystes politiques comme anti-Bruxelles, souverainiste, mais surtout opportuniste. Il a su pour ce premier tour parfaitement capter l'électorat de Calin Georgescu, et même un peu plus.
Merci Virginie Pironon, en direct de Bucarest avec Romain Lucas pour les moyens techniques. Alors cette victoire hier de l'extrême droite en Roumanie témoigne de la montée aujourd'hui d'un nationalisme à travers toute l'Union européenne, nourri par un ressentiment à l'égard des politiciens des partis traditionnels. Et c'est le cas aussi en Allemagne où récemment le parti AfD a atteint un score historique avec 20% des voix, un coup de tonnerre politique dans un pays où la mise en place attendue d'une coalition entre les conservateurs et les sociaux-démocrates ne suscite aucun état de grâce. D'autant plus lorsque les partenaires qui doivent former le nouveau gouvernement affichent déjà leur désaccord avant même d'entrer en fonction. Sébastien Bayer, bonjour.
Bonjour Thomas, bonjour à tous.
En direct de Berlin. Alors, signe de ces turbulences qui agitent la classe politique outre-Rhin, sans doute que le succès du futur chancelier conservateur Friedrich Merz dépendra en partie d'un certain Boris Pistorius, pourtant un social-démocrate, mais devenu de loin le responsable le plus populaire du pays. C'est ainsi que ce matin, Sébastien, l'homme âgé de 65 ans, connu pour son engagement, son franc-parler, son humour, s'est vu confirmé au poste de ministre de la Défense dans le nouveau gouvernement.
Oui, arrivé il y a 2 ans, tout juste, dans le gouvernement d'Olaf Scholz, quasi inconnu jusque-là, il faut le dire, l'ancien maire d'Osnabrück est le seul à conserver son poste, très populaire, vous l'avez rappelé, grâce à son style direct et à sa fermeté en matière de sécurité. Il a même été pressenti pour être un temps le candidat du SPD aux législatives de février, mais il a préféré se retirer au profit d'Olaf Scholz. Depuis son arrivée à la Défense, Boris Pistorius a bousculé l'opinion publique et le légendaire pacifisme allemand. Il estime que la Bundeswehr doit être capable de faire la guerre d'ici 2029 pour faire face à la menace russe. La tâche qui l'attend est herculéenne face au désengagement militaire américain. Il va devoir augmenter les dépenses de défense. Elles sont fixées pour l'instant à 2% du PIB, mais pourraient être relevées à 3,5% le mois prochain par Mark Rutte, le secrétaire général de l'OTAN. Pour y parvenir, Pistorius va disposer de moyens désormais presque sans limite, grâce à l'enveloppe de plusieurs centaines de milliards d'euros débloquée par le futur chancelier Friedrich Merz. Le ministre a promis d'aller vite avec une loi cette année qui doit faciliter l'approvisionnement de l'armée allemande. Il discute aussi avec les groupes d'armement pour qu'ils augmentent leur capacité de production. Depuis ce matin, la photo de famille de la nouvelle coalition allemande est donc complète. 17 ministres, 10 conservateurs, 7 sociaux-démocrates. Le nouveau gouvernement prêtera serment demain, le jour de l'investiture de Friedrich Merz.
Merci Sébastien Baer en direct de Berlin.
Contrairement aux souhaits de la très grande majorité de la population, le cabinet politico-sécuritaire israélien a approuvé la nuit dernière un nouveau plan de combat.
Oui, l'État hébreu a notamment annoncé l'expansion de son offensive dans la bande de Gaza, mais aussi la conquête et le contrôle du territoire palestinien. Thibault Lefèvre, bonjour.
Bonjour Thomas.
En direct de Jérusalem, dès hier soir, l'armée avait confirmé le rappel de dizaines de milliers de réservistes pour mener cette offensive totale sur Gaza. Et pour se justifier, l'objectif affiché par le gouvernement du Premier ministre Benjamin Netanyahu, l'un des plus à droite de l'histoire du pays, reste invariablement le même, vaincre le mouvement islamiste Hamas.
Oui, vaincre le Hamas par la force. L'objectif du gouvernement n'a pas changé. Il s'agit d'obliger l'organisation islamiste à revenir à la table des négociations, à libérer les derniers 59 otages et à abandonner le pouvoir. Ce qui évolue, Thomas, en revanche, c'est la stratégie. Depuis la reprise des combats le 18 mars dernier, Israël occupe environ un tiers de la bande de Gaza, le sud à la frontière avec l'Égypte, et une très large zone tampon autour de l'enclave. L'aviation israélienne bombarde quotidiennement, tuant comme ces dernières 24 heures des dizaines de civils, et l'infanterie effectue des raids sur la base du renseignement. En revanche, dans les prochains jours, le dispositif va monter en puissance avec, vous l'avez dit, la mobilisation de renforts en provenance du Nord et de la Cisjordanie. Écoutez le décryptage de l'analyste militaire Kobi Mikael de l'Institut israélien de la sécurité nationale.
L'armée israélienne prépare l'occupation totale de la bande de Gaza et la mise en place d'une administration militaire temporaire. L'objectif est de démanteler définitivement le Hamas en tant que puissance souveraine à Gaza. Ce n'est pas une nouvelle stratégie, c'est une étape supplémentaire.
À voir désormais si l'armée a les moyens des ambitions de son gouvernement. Après 19 mois de guerre, les réservistes sont fatigués et la colère monte dans la rue avec ces familles d'otages qui accusent le Premier ministre Benjamin Netanyahu de maintenir un état de guerre permanent et de sacrifier leurs proches pour rester au pouvoir.
Merci Thibault Lefèvre en direct de Jérusalem. Alors on évoquait tout à l'heure comment Donald Trump pouvait encore servir de modèle, et notamment en Roumanie, lui dont la communication erratique a pourtant largement ébranlé le monde globalisé depuis son retour à la Maison Blanche. Tout le week-end, le président américain aura encore saturé l'espace médiatique après avoir tout d'abord publié sur son réseau social un portrait de lui vraisemblablement généré par l'intelligence artificielle, le montrant vêtu en pape, le locataire de la Maison Blanche, dans un style toujours inimitable lorsqu'il s'agit de repousser les limites du pouvoir présidentiel, a affirmé hier dans une interview ne pas savoir s'il devait ou non respecter la Constitution. Quoi qu'il en soit, et parmi tous ceux, ils sont nombreux, qui s'inquiètent des annonces de la nouvelle administration américaine, les chercheurs notamment occupent une place particulière entre liberté académique minée d'un côté et financement sabré de l'autre. Or, avant même de savoir jusqu'à quel point Donald Trump est susceptible ou non de modifier l'écosystème de la recherche mondiale, eh bien la France et l'Europe ont décidé de faire un appel du pied aux chercheurs américains en organisant aujourd'hui à Paris une conférence intitulée Choose Europe for Science, avec à la clé de possibles incitations financières pour les attirer. Mathieu Laurent, bonjour.
Bonjour.
Vous êtes sur place dans les locaux du prestigieux campus universitaire de la Sorbonne, où l'événement a été clôturé il y a quelques minutes par le chef de l'État Emmanuel Macron et la présidente de la Commission européenne Ursula von der Leyen.
Oui, la présidente de la Commission a évoqué dans un premier temps un nouvel acte législatif sur l'espace européen, actif dès l'année prochaine, qui assurera la libre circulation des connaissances et des données ainsi que des chercheurs. Après quoi, Ursula von der Leyen a abordé un volet financement.
We need to offer the right incentives. Et nous devons offrir des mesures d'incitation appropriées. C'est pour ça que je suis fière d'annoncer que nous allons mettre sur pied un nouveau package de 500 millions d'euros pour le biennium de 25 à 27 pour rendre l'Europe un aimant pour les chercheurs.
À venir, une toute première loi européenne sur l'innovation en faveur des start-up et des entreprises en expansion. Les derniers mots, vous l'avez dit Thomas, sont revenus au président de la République qui a appelé, je cite, à refuser les diktats, comprendre ce Donald Trump dont les charges contre les libertés académiques abîment, compromettent la vérité scientifique, avant d'en venir aux engagements budgétaires français, outre ceux en cours, dans le cadre des plans d'investissement d'avenir 2030. Emmanuel Macron.
C'est aussi le sens de Choose France for Science que nous avons lancé il y a quelques semaines, qui a suscité plus de 30 000 connexions, dont un tiers depuis les États-Unis, plusieurs centaines de dossiers ouverts. Et l'objectif est du doctorant au prix Nobel, en passant par les post-docs, les professeurs juniors, d'accueillir autant que de besoin et avec une seule exigence de qualité des candidats. Des moyens supplémentaires seront mis en place. 100 millions d'euros que l'État apportera à travers France 2030.
Et le chef de l'État a également appelé à un cofinancement par les entreprises et les collectivités. Un dernier mot, Thomas. Les syndicats de l'enseignement supérieur voient dans cet événement impulsé par l'Élysée, je cite, une initiative choquante, voire indécente, compte tenu d'un sous-financement chronique de la recherche.
Merci Mathieu Laurent, ainsi qu'à Lucien Lefebvre pour les moyens techniques. Et pour continuer d'évoquer ces annonces, invité à présent de la rédaction, Claire Mathieu est directrice de recherche au CNRS en informatique, par ailleurs membre de l'Académie des sciences et soutien également de Stand Up for Science. Bonjour madame.
Bonjour monsieur.
Peut-être pour commencer, comment réagissez-vous aux annonces donc de ce matin, en particulier cette enveloppe de 500 millions d'euros, mais aussi l'objectif affiché d'atteindre 3% du PIB investi. Est-ce que ce dispositif vous semble à la hauteur des suppressions de crédits prévues aux États-Unis ?
Eh bien, 500 millions d'euros fournis par l'Europe sur 3 ans, 2025-2027, ça fait à peu près 170 millions par an. Alors, l'administration Trump, elle propose dans son budget 2026 une baisse du budget de la recherche de 23%, un quart. Le budget de la recherche fédérale, c'est 195 milliards de dollars environ. Donc, ça veut dire à peu près 40 milliards d'euros en moins. Si on voulait compenser ça, il faudrait plus 40 milliards d'euros. Or, la proposition, c'est 170 millions. 170 millions, c'est très bien. Mais ce n'est pas à la hauteur du drame qui est en train de se passer aux États-Unis pour la science.
Alors 500 millions pour l'Europe, 100 millions supplémentaires pour la France. Emmanuel Macron insiste pour camper donc la France, l'Europe en refuge d'une liberté académique qui serait menacée outre-Atlantique par le contrôle politique donc du pouvoir trumpiste. Très concrètement, de quelle liberté académique parle-t-on ?
Alors la liberté académique... on peut l'avoir en négatif et en positif. En négatif, donc c'est nous protéger contre ce qui peut attaquer les chercheurs et enseignants-chercheurs, et en positif, ce qui aide à faire son travail de chercheur. Donc en particulier, dans la liberté académique, il y a la protection contre les ingérences du pouvoir politique ou économique, protection contre les arrêts brutaux de financement et protection contre les licenciements. Alors, aux États-Unis, c'est caricatural, l'ingérence. C'est absolument extrême. Maintenant, en France, j'ai entendu tout à l'heure l'annonce des contrats d'objectifs de moyens et de performance à partir de l'an prochain dans une dizaine d'universités. 100%, dès le premier euro, l'argent serait lié au respect d'un contrat sur des indicateurs choisis par le ministère, j'imagine. Et donc, ça veut dire qu'en réalité, les établissements seraient contraints, sous peine de voir leur financement réduit, de suivre, de faire ce que veut le pouvoir politique. Donc ça ne va pas dans le sens d'un accroissement de la liberté académique.
On l'a beaucoup entendu ces dernières semaines, des chercheurs se montrent, disons, plutôt perplexes quant à la possibilité pour l'université française de se montrer attractive pour des chercheurs américains, que ce soit sur leur niveau de salaire, les conditions dans lesquelles ils travaillent. Diriez-vous que la situation de la recherche en France est à ce point délabrée qu'elle ne pourrait pas attirer des chercheurs, des chercheuses américaines ?
Je suis un peu sceptique sur ce programme, en ce sens que il faut un cofinancement par les universités, les établissements. Or, les universités sont pour la plupart déficitaires suite aux coupes budgétaires. Il y a encore 10 jours, il y a eu une coupe budgétaire, une annulation de crédit d'un demi milliard presque d'euros annoncés. On annonce que ça ressemble, c'est inspiré du programme Make Our Planet Great Again, qui a été lancé vers 2017-2018. Ce programme avait permis d'accueillir 43 scientifiques et les dépenses étaient quelques dizaines de millions d'euros. Donc, il y a effectivement des gens qui ont été recrutés, quelques personnes, mais c'est vraiment une goutte d'eau par rapport aux besoins actuels.
Ça veut dire que les annonces de ce matin sont presque en contradiction avec les conditions budgétaires dans lesquelles se trouvent nos universités en France ?
Ben, je dirais que il a été annoncé que la recherche était très importante, que venir au secours des scientifiques menacés, c'était très important. Mais par exemple, le programme PAUSE, qui a été mentionné, qui est fait pour venir au secours des scientifiques menacés, moi, ce que j'ai entendu dire, c'est que son budget cette année a été diminué de 60%. Or, Emmanuel Macron vient d'annoncer qu'on continuerait le programme PAUSE. Est-ce qu'on le continue avec un budget fortement diminué ou est-ce qu'on va vraiment continuer à soutenir autant qu'avant, voire plus, les scientifiques menacés? Là, je demande à voir.
Une dernière question. Comment analysez-vous le choix des domaines scientifiques qui sont destinés à être soutenus donc, par ce dispositif? Et du coup, que dire aussi des domaines qui n'ont pas été retenus? Je pense notamment aux sciences humaines et sociales qui sont particulièrement visées d'ailleurs par l'administration Trump.
Vous avez raison. Parmi les domaines mentionnés, la santé, le climat, le numérique, le spatial, l'énergie, l'agriculture, il n'y a pas l'histoire ou la sociologie, alors que c'est ciblé par l'administration Trump. Donc, je pense que la priorité, ça n'est pas de venir d'abord au secours des gens les plus menacés, mais c'est peut-être d'essayer de renforcer des domaines vus comme prioritaires. Cela dit, le climat est vu comme prioritaire. Le climat, en novembre 2023, Emmanuel Macron a annoncé un investissement d'1 milliard d'euros dans la recherche polaire d'ici 2030, dont 100 millions pour rénover la station Dumont-d'Urville en Antarctique. Pour l'instant, l'argent n'a pas été débloqué. Donc, il parle du rapport à la vérité. La vérité des annonces, c'est dans leur mise en œuvre effective. Donc, j'aimerais que ces 100 millions d'euros soient débloqués.
C'est bien compris. Merci Claire Mathieu, directrice de recherche au CNRS en informatique et par ailleurs membre de l'Académie des sciences, d'avoir répondu à notre invitation. Merci également à Loïs Guérin pour la préparation.
Va-t-on assister en France au retour d'un service militaire obligatoire ?
Emmanuel Macron avait demandé que des propositions lui soient faites avant le mois de mai pour éclairer le débat sur l'évolution d'un service national, volontaire ou obligatoire, civil et ou militaire. Or, derrière la variété donc des modèles proposés, toute la difficulté évidemment est de trouver une formule qui soit politiquement et financièrement viable. Stéphane Robert, bonjour.
Bonjour Thomas.
Alors le Haut Commissariat au Plan vient justement de soumettre plusieurs scénarios au chef de l'État, lequel semble bien décidé à mener cette grande refonte du SNU, le Service National Universel, un dispositif créé en 2019, que l'on pensait d'ailleurs en partie enterré. Sauf que la géopolitique mondiale, Stéphane, en a visiblement décidé autrement.
Oui, on pensait le Service National Universel définitivement enterré, puisque 80% des crédits alloués au SNU avaient été supprimés début février lors du vote du budget 2025. Mais les positions erratiques de Donald Trump sur la guerre en Ukraine et face à la menace russe ont relancé l'idée que le SNU ou une autre forme d'engagement citoyen pourrait peut-être avoir une utilité. Par conséquent, vous l'avez dit, mi-mars, Emmanuel Macron demandait que des propositions lui soient faites. Et c'est donc l'objet d'un rapport du Haut Commissariat au Plan publié ce matin. Ce rapport propose plusieurs scénarios. D'abord, un renforcement de l'actuel Service National Universel qui jusqu'ici concernait 40 000 jeunes par an. Ce serait un SNU vitaminé, dit l'enquête. Pour rappel, c'est d'abord un séjour de cohésion d'une douzaine de jours, puis un engagement civique de 3 mois minimum. Ça se ferait toujours sur la base du volontariat. On monterait en puissance pour arriver à 200 000 jeunes et ça coûterait 600 millions d'euros par an. Autre scénario, celui d'un service civique universel. On passerait là d'un service volontaire à un service obligatoire qui pourrait concerner 75% d'une classe d'âge, c'est-à-dire 600 000 jeunes par an. Il pourrait durer de 6 à 12 mois et coûterait entre 2 milliards et 3 milliards et demi d'euros par an. Troisième scénario, un service militaire volontaire, avec l'idée qu'on pourrait attirer 70 000 volontaires par an pour un service de 6 mois. Coût estimé 1 milliard 700 millions d'euros. Le quatrième scénario évoque le retour d'un service militaire obligatoire de 6 mois, qui coûterait aux alentours de 15 milliards d'euros. Et puis sont aussi évoqués des scénarios hybrides, avec un service civil obligatoire de quelques mois, puis un service militaire volontaire ou obligatoire. La balle est désormais dans le camp des responsables politiques et notamment de l'exécutif. Mais on voit bien le casse-tête que constitue un renforcement du dispositif SNU. Il est budgétaire car il propose des dépenses supplémentaires potentiellement importantes alors que le gouvernement cherche déjà 40 milliards d'euros d'économies dans le budget de l'année prochaine.
Merci Stéphane Robert. Premier jour d'une semaine marquée par plusieurs appels à la grève à la SNCF. Le trafic est fortement perturbé aujourd'hui en Île-de-France sur les RER, B et C ainsi que pour trois transiliens, mais normal sur la plupart des autres lignes. Le point d'orgue de ce mouvement, ce sera bien sûr vendredi, samedi et dimanche avec la grève des contrôleurs qui s'annonce suivie en plein week-end du pont du 8 mai. Les syndicats réclament une hausse des rémunérations et une meilleure organisation du travail. On termine avec un mot du temps pour cet après-midi avec un ciel variable. Variable sur la majeure partie du pays, même couvert, voire pluvieux sur les reliefs des Pyrénées aux Alpes et au Jura. Quant aux températures, elles seront comprises entre 11 et 20 degrés. C'est la fin de ce journal. Il était réalisé par Nicolas Pommet. À 18h, vous avez rendez-vous avec Aurélie Kiefer pour le prochain journal de la rédaction.